Place publique.
La journée de la vaccination contre la grippe, c'est vendredi. Le vaccin contre la grippe, un choix et non une obligation. Reste que les autorités recommandent chaudement à la population de se faire vacciner, surtout certaines personnes à risque et leur entourage. Certaines entreprises prennent aussi des dispositions en la matière. Vous entendrez à ce sujet le porte-parole de Migros. Organiser ses propres funérailles pour libérer son entourage et voir ses dernières volontés respectées, c'est une tendance en forte augmentation en Suisse romande, selon les professionnels du domaine. On en parle après 18h30 avec la rédactrice en chef du magazine Bon à Savoir, qui publie aujourd'hui une enquête sur la question. Enfin, manger n'est pas un acte sans responsabilité morale, droit des animaux, respect de l'environnement ou encore conditions de travail des employés. Un sociologue de l'université de Neuchâtel s'est intéressé à l'évolution de la notion de ce qui est bien et mal dans nos choix alimentaires. Notre entretien avec Philippe Baltiguer, c'est en dernière partie d'émission.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. Le virus de la grippe est à nos portes. Pour ne pas le laisser entrer, les autorités sanitaires recommandent à la population de se faire vacciner, surtout certains publics à risque ou tous ceux qui les côtoient. À deux jours de la journée nationale de vaccination contre la grippe, on en parle avec notre première invitée, Rebecca Andereau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le médecin cantonal adjoint du canton de Neuchâtel. Alors un peu comme les pneus d'hiver, on a envie de dire qu'il vaut mieux avoir un peu d'avance sur la grippe.
Oui, c'est exact. Se vacciner contre la grippe est un acte de prévention et il faut se faire vacciner maintenant. C'est maintenant que débute la campagne de vaccination. Ça ne sert à rien de se vacciner contre la grippe une fois qu'on l'a attrapée.
Ni trop tôt. Les deux dernières années le montrent, hein, l'épidémie peut avoir de l'avance par rapport à ce qu'on attend généralement autour de janvier-février.
C'est exact. L'année passée, la grippe a commencé à la semaine 50, donc c'était à la fin du mois de décembre, et puis a duré jusqu'à la sixième semaine de 2017. L'année précédente, c'était la même chose. Cette année, je ne peux pas encore prédire quand elle aura lieu, mais elle peut se reproduire en décembre, mais ça peut aussi arriver en février, mars.
Ça peut arriver plus ou moins tôt, on l'a bien compris. Alors, on n'est pas tous égaux hein, face à la grippe, raison pour laquelle le vaccin est expressément recommandé pour certaines catégories de population. Un des critères déterminants, bien sûr, c'est l'âge.
Oui, donc la vaccination est recommandée aux personnes qui ont plus de 65 ans parce que leur système immunitaire est moins compétent. Elle est recommandée aux femmes enceintes, elle est recommandée aux petits-enfants de moins de 2 ans, aux prématurés et puis à toutes les personnes tout âge confondu qui souffrent d'une maladie chronique ou une grippe pourrait les affaiblir davantage.
Et bien sûr, toutes les personnes qui côtoient ces personnes fragiles.
Oui, donc ça, le premier groupe, c'était les gens à risque. Et après, il y a toute la question de l'entourage. Donc, la grippe, se vacciner contre la grippe est aussi un acte de solidarité, des fois. Et des personnes qui sont en présence de personnes plus exposées au risque de faire une grippe compliquée devraient aussi se faire vacciner. Donc là, on parle du personnel soignant, mais aussi des proches aidants qui sont proches d'une personne malade.
Néanmoins, Rebecca Andereau, les personnes qui sont employées dans un hôpital n'ont pas l'obligation de le faire. Ça paraît quand même étonnant, puisqu'il y a apparemment une responsabilité sanitaire.
Donc, l'obligation de vaccination n'existe pas nulle part.
Même pas dans les hôpitaux.
Non, on recommande vivement aux personnes qui sont auprès de sujets très à risque de se faire vacciner. Il existe certains hôpitaux qui ne mettent pas des personnes non vaccinées à des postes à risque. Donc, il est possible qu'on ne mette pas chez les prématurés du personnel non vacciné, ou alors on les oblige à porter un masque. Voilà, il y a différentes stratégies qui sont mises en place.
Un enjeu sanitaire, vous venez de le dire, un enjeu aussi économique. Je vous propose d'entendre à ce sujet ce qu'il en est pour le plus gros employeur privé de Suisse, le groupe Migros. On écoute son porte-parole qui va nous expliquer ce qui est mis en place pour les employés en matière de vaccination. Des employés qui sont plus de 100 000, il faut le rappeler. Tristan Serre.
Alors, il n'y a pas de directive nationale. Migros, c'est 50 entreprises, une cinquantaine d'entreprises, c'est un groupe, et ça représente plusieurs centaines de métiers différents. Donc, les besoins, les impératifs, ils vont être différents selon les secteurs d'activité. Donc, chaque entreprise, donc chaque coopérative aussi, est libre de proposer sa solution. La plupart, c'est vrai, offrent un vaccin ou une vaccination, on ne peut pas se faire soi-même, une vaccination contre la grippe. C'est le cas lors de Migros Neuchâtel Fribourg, qui est la coopérative régionale dans votre région. Et puis eux, ils proposent un vaccin gratuit. Et ce qui est généralement aussi le cas, mais aucune de ces entreprises n'est tenue d'avoir une solution ou une autre.
Et ça veut dire qu'aucun collaborateur n'est forcé, contraint de se faire vacciner?
Non, c'est une proposition, c'est-à-dire que on met à disposition des vaccins gratuits. C'est vrai que certaines collaboratrices, certains collaborateurs sont en contact direct avec la clientèle, ont beaucoup de contacts physiques aussi avec des produits, et puis certains ont envie d'avoir la possibilité de se faire vacciner, d'autres pas, et c'est vraiment libre à chacun. Il n'y a aucune, on ne pousse personne à le faire et on ne déconseille personne à ne pas le faire.
Vous parlez de la coopérative Neuchâtel Fribourg, alors on apprend que les collaborateurs autrices ont la possibilité de se faire vacciner ou de recevoir un kit homéopathique gratuitement. Ça veut dire que pour vous, ce sont deux alternatives.
Alors c'est un peu une particularité de Neuchâtel Fribourg. Ce n'est pas toutes les entreprises Migros qui font ça. Ça montre la liberté en fait. Et là, Migros Neuchâtel Fribourg a décidé d'offrir une sorte d'alternative. Alors ce n'est pas une alternative au vaccin, ce n'est pas la même chose. Mais c'est pour ceux peut-être qui n'auraient pas envie de se faire vacciner, qui n'aiment pas les vaccins, mais qui ont quand même envie de faire quelque chose, ben, il y a cette possibilité de booster son système immunitaire avec un kit homéopathique. Ce n'est pas vraiment sur le même niveau, mais ça permet de sensibiliser aussi le collaborateur à dire attention, c'est cette période-là, elle commence, et puis il n'y a pas non plus que la vaccination, mais il y a aussi toute une attention qu'on peut porter à un certain nombre de ne serait-ce que d'habitude dans la journée, de se laver les mains par exemple. Et puis c'est important à cette époque-là de peut-être rappeler aux gens que la période de la grippe arrive.
Quelle est la réception de ces propositions que vous faites à vos employés?
Elle est bonne. Alors, j'ai pas de chiffres parce que justement, comme c'est la liberté totale, on n'a pas envie non plus de tracer les collaborateurs. J'ai pas de chiffres, mais la réception est bonne. Elle est bonne surtout parce que justement, on laisse la possibilité de le faire et que c'est gratuit.
Rebecca Andereau, vous confirmez des kits homéopathiques ou le vaccin, ce n'est pas la même chose, c'est pas sur le même plan?
Non, c'est absolument pas la même chose. Donc, pour se protéger contre la grippe, il n'y a que le vaccin qui protège. Ça, il faut le savoir. Les mesures homéopathiques, ça peut être un complément pour des personnes en bonne santé, mais il ne faut pas croire qu'on est protégé grâce à ces produits-là.
Un dernier mot quand même sur cette journée de vendredi, une journée, vous le confirmez aussi, qui nous permet de se faire vacciner peut-être plus facilement chez les médecins, en tout cas sans prendre rendez-vous ou dans les pharmacies.
Mm-hmm. Oui, alors il y a la possibilité d'aller chez les médecins, donc il faut regarder sur la liste qui se trouve sur le site internet du Collège des médecins de premier cours. Donc tous les médecins ne participent pas, mais ceux qui sont inscrits, puis il y a aussi la possibilité de se faire vacciner, pas seulement le 3 novembre, mais pendant toute la période de vaccination dans des pharmacies. Puis là aussi, il y a le site sevaccinerenpharmacie.ch qui donne la liste des pharmacies par canton où c'est possible. Donc le canton de Neuchâtel est un canton où c'est possible.
Merci.
Mais ça, c'est réservé aux gens de plus de 16 ans en pharmacie. Faut aussi le souligner.
Le message à passer. Merci infiniment Rebecca Andereau, médecin cantonal adjoint du canton de Neuchâtel, de nous avoir rejoint pour parler grippe. On vous souhaite une bonne soirée et en bonne santé.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et nous sommes le 1er novembre, ça ne vous a pas échappé, jour de la Toussaint, et demain c'est le jour des morts. L'occasion de rendre hommage à nos proches défunts, mais aussi pour certains, de penser à organiser leurs propres funérailles. Le magazine Conso Roman Bon à Savoir publie aujourd'hui une enquête sur la question, une enquête réalisée auprès des entreprises de pompes funèbres de la région, de Suisse romande. Et la tendance est claire, la prévoyance funéraire suscite toujours plus d'intérêt. Alors pour en parler, nous sommes avec Zeynep Ersan-Berdo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice et rédactrice en chef de Bon à Savoir. Alors, plus d'une personne sur 10, on pourrait dire, 15% apparemment, veille à prendre en charge et à organiser leur dernière cérémonie. Une nette augmentation selon les professionnels du domaine. C'est ce que vous avez constaté?
Alors, c'est ce qu'on a constaté, effectivement. Donc, les professionnels de la branche, du domaine, disent effectivement qu'il y a de plus en plus de personnes qui les consultent hein, pour se poser des questions, pour se renseigner, pour savoir ce que c'est exactement que cette prévoyance funéraire. Hein. La terminologie interpelle aussi. Après, effectivement, le nombre de contrats augmente progressivement. Il n'y a pas d'explosion, mais néanmoins, une curiosité, en tout cas, de la population romande, visiblement, pour ce genre de démarche.
Ce qui justifie, bien entendu, votre intérêt sur la question. Parmi ces personnes prévoyantes, on trouve des soixantenaires, mais pas seulement.
Non, pas seulement, hein, également des quinquagénaires qui se posent des questions, hein, qui pour eux, hein, pas pour leurs parents bien sûr, hein, mais pour eux directement. Et la principale motivation de ces personnes, c'est de décharger la famille des soucis administratifs et financiers, mais également hein, de s'assurer que ces dernières volontés soient bien respectées. Hein. On sait très bien qu'il y a souvent des disputes au sein des familles pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec le corps, si la personne va être enterrée, si elle va être ensevelie, etc. Donc, il y a des choix qui doivent être faits. Et souvent, très souvent, dans la plupart des cas, ces choix sont laissés aux survivants, alors qu'il est tout à fait possible, justement, via ces prévoyances funéraires ou d'autres dispositions, hein, l'essentiel, c'est la clarté de la communication, indiquer ce qu'on souhaite pour soi-même après, avec la possibilité de déjà tout organiser et dans certains cas de déjà payer le tout.
Et on va en parler bien sûr des modalités de contrat. Et juste pour être clair, quand on dit préparer ses funérailles, Zeynep Ersan Berdou, on parle autant par exemple du mode de sépulture que du buffet pour les invités.
Mais c'est ça, du choix du cercueil, de la décoration florale, de la musique, de la nourriture, comme vous le disiez, qui sera servie lors de l'apéritif. Il n'y a pas un seul détail qui est laissé au hasard. On va même plus loin sur, par exemple, qu'est-ce qui va se passer des comptes numériques, hein, les comptes sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils vont rester ouverts? Est-ce qu'il faut les fermer? Est-ce qu'il faut qu'ils restent des comptes posthumes ou pas? Donc, tout peut être décidé avant qu'il ne soit trop tard pour le communiquer à ses proches.
Il y a donc une demande. Ça veut dire qu'il y a un marché, une offre, une prestation, bien sûr, qui est payante. Alors, sans comparer en détail les offres, elles peuvent passer, on imagine, du simple au double selon ce qu'on demande. Vous avez donc comparé les modalités de contrat. On va peut-être s'intéresser plutôt à ça. Une fois que la somme versée, est-ce que ça signifie que les proches du défunt n'auront plus à mettre un centime sur la table ?
Alors ça, dans un monde idéal, ça devrait être comme ça, mais non, puisqu'il s'agit justement de prévoyance funéraire. Donc prévoyance, ça veut dire que ce n'est pas une prestation qui va être fournie, en tout cas on l'espère tout de suite. Donc elle va être fournie dans 10 ans, 20 ans, 25 ans, en fonction de l'âge, du moment auquel on a signé ce type de contrat. Donc forcément que les prix évoluent aussi, hein, les prix des prestations, mais également des taxes. Il y a évidemment beaucoup de taxes qui entrent en ligne de compte. Donc là, notre comparatif a permis de montrer justement que la plupart de ces entreprises de pompes funèbres garantissent leur prix à eux, le prix de leurs prestations. Certains les adaptent tous les 4 ou 5 ans ou les adaptent au prix du jour. Donc il y a différents modèles. En revanche, les taxes, elles vont évoluer et puis elles seront donc dues par les descendants le moment venu en fonction des tarifs du moment.
Ouais, on le comprend bien, ça ne donne aucune garantie par rapport aux descendants ou aux proches du défunt ou de la défunte.
Alors, ça donne quand même pas mal de garanties, mais pas de garantie totale, évidemment, puisque la prestation va être fournie bien plus tard et que notamment tout ce qui est taxe va forcément évoluer au gré du temps.
Et admettons par exemple qu'au printemps, on ait d'autres idées que des idées funestes et qu'on veuille résilier le contrat de prévoyance, c'est possible ou on doit là encore mettre la main au porte-monnaie ?
Alors c'est possible, mais effectivement il y a dans deux cas hein, dans notre comparatif où c'est possible sans frais. Par contre, bon, la plupart des cas, il faut quand même payer des frais qui peuvent aller jusqu'à 600 francs de frais de résiliation, ça c'est l'extrême supérieur. Donc la fourchette des frais varie entre 150 francs pour une entreprise basée à Moutier jusqu'à 600 francs pour une autre société de pompes funèbres qui elle est établie dans le canton de Vaud. Voilà, donc ça c'est la fourchette. Mais il y en a quand même deux qui acceptent cette résiliation sans frais.
Et par rapport à l'offre de base, alors qu'est-ce que l'offre de base ? On peut en discuter, mais par rapport à l'offre de base, ça varie dans quelle fourchette de prix ?
Alors l'offre de base en fait varie du simple au quadruple en fonction de ce que vous avez décidé, hein, jusqu'où vous voulez aller, jusqu'où vous voulez organiser. Donc là il n'y a pas vraiment de plafond en fin de compte. Hein. Donc c'est vrai que là c'est à la carte. tout est possible, tous les cas de figure sont envisageables. Si vous voulez un buffet extrêmement riche, bah, évidemment que les frais vont être assortis à la richesse de votre buffet et vont être beaucoup plus importants. Donc là, tout est vraiment à la carte et tout est possible. Donc, les frais varient. Vraiment, la facture peut aller, si on reste dans des choses normales, en restant dans une, entre guillemets, normale, les tarifs, eux, vont varier du simple au quadruple. Hein. Autre donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas comparés à ce niveau-là, et parce que là, il y a autant de cas que de souhaits, en fin de compte.
Bien sûr, c'est pour ça que le plus intéressant, peut-être le plus signifiant pour les auditeurs et vos lecteurs surtout, c'est de comparer les modalités de contrat. Alors, il y a un cas de figure auquel il faut penser, c'est si l'entreprise disparaît avant le client. Autrement dit, si la société fait faillite, qu'est-ce qui va advenir de mon argent ?
Si c'est le client qui doit s'occuper des funérailles de l'entreprise,
effectivement.
Donc là, ça devient un petit peu plus gênant. Donc là aussi, ben, on a comparé tout ça. Hein, et là également, dans la plupart des cas, l'argent va être restitué, puisque donc les entreprises ont pris des dispositions en réassurant, par exemple, les montants qui ont été versés. Mais les choses ne sont pas aussi claires que ça, puisque dans trois cas, les entreprises de pompes funèbres nous ont promis que l'argent serait restitué. Mais quand on est allé plus loin, en leur demandant mais quelles sont les dispositions qui garantissent ce remboursement au-delà de l'annonce, eh bien, ils n'ont pas pu nous expliquer comment. Donc là, dans le tableau comparatif qu'on publie dans le numéro de novembre de Bon à savoir, on a indiqué justement toutes les garanties en cas de faillite. Et on voit bien que dans trois cas, ce n'est pas très clair.
Merci beaucoup Zeynep Hersan-Berdou de nous avoir donné les quelques conclusions de cette enquête à retrouver donc dans le magazine de Bon à savoir, vous l'avez dit, une enquête de saison. Merci de nous en avoir donné la teneur, on vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonne soirée à tous.
Place publique.
Avant de passer à table, on va prendre le temps de s'intéresser à ce qu'il y a dans nos assiettes. Pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir choisir ce qu'elles mangent, l'achat d'un aliment ne dépend plus seulement de son aspect ou encore de son goût, mais aussi, voire surtout, de son mode de production. Autrement dit, le consommateur accorde toujours plus d'importance à des critères moraux, savoir si c'est bien ou mal d'acheter ceci ou cela. Une tendance qui n'échappe pas non plus au marché, obligé bien sûr de s'adapter aux demandes, aux attentes. Il peut s'agir du droit des animaux, du respect de l'environnement ou encore des conditions de travail. Un sociologue de l'Université de Neuchâtel s'intéresse de près à ces questions. Il s'appelle Philippe Baltiguer, il est professeur assistant en sociologie économique à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Et il donne d'ailleurs en ce moment même sa leçon inaugurale en public avec pour point de départ cette question... La bouffe avant la morale. Alors, élément de réponse avec Philippe Baltiguer lui-même, nous l'avons rencontré en fin de matinée.
Aujourd'hui, c'est plutôt quelle morale ? Donc la question, c'est plus tellement la bouffe avant la morale ou la morale avant la bouffe, mais c'est quelle morale ? Puisque aujourd'hui, on est dans une situation où il y a beaucoup d'enjeux moraux différents qui se sont inscrits en fait dans les marchés, en particulier le marché de l'alimentation. Alors c'est l'environnement, c'est l'éthique animale, c'est le commerce équitable, le local. Il y a différents enjeux qui sont là. Et en fait, c'est encore plus compliqué que ça. Donc, et parfois, il y a un peu des contradictions aussi entre ces enjeux.
Est-ce qu'on mesure le fait que la morale prend toujours plus de place dans l'assiette ?
On peut le mesurer d'une part, je dirais, par la pluralité des labels, hein, par exemple, qui renvoient à cette origine, de différents types d'origine morale des produits. On peut le mesurer aussi par le fait que ces produits ont un certain succès commercial. Hein, donc, il y a en tout cas une partie de la population qui achète ces produits. Hein. Alors, est-ce que c'est toujours pour des raisons morales ? C'est pas forcément le cas. On peut aussi acheter un produit bio parce qu'on pense que le goût est meilleur. Alors, bon, c'est pas forcément une raison morale à ce moment-là. Mais on peut le mesurer comme ça. On peut aussi le mesurer à travers des enquêtes qu'on fait sur les consommateurs pour savoir s'ils tiennent compte de ces dimensions dans leurs achats. Et là, on voit qu'il y a une part de plus en plus grande, je dirais, des consommateurs qui tiennent compte de ça, ou en tout cas qui disent tenir compte de cela. C'est un peu plus que celui qui le... Enfin, si on mesure après par rapport aux achats, c'est effectif. Il y a un peu un écart, donc il y a aussi une norme qui fait qu'il faut dire qu'on achète bio, qu'on achète local, qui ne correspond pas forcément aussi à ce qu'on fait, donc là il y a un peu de décalage. Mais néanmoins, on peut le mesurer, on peut l'observer de cette manière.
On sait que consommer mieux, c'est souvent consommer aussi plus cher. Est-ce que la montée de cette moralisation de la nourriture n'est pas aussi discriminante pour une catégorie de population peut-être moins aisée, plus pauvre ?
Oui, donc ça c'est la question vraiment de quelle morale est inscrite dans ces marchés et de quelle manière. Alors je crois qu'en partie, cette origine morale des produits, par exemple le bien-être animal, devient une catégorie marchande qui est aussi une forme de valuation. Donc ça a plus de valeur, donc à la fois morale mais aussi monétaire. Donc généralement ça coûte plus cher. Donc du coup, c'est vrai que de ce point de vue, il y a aussi une question d'inégalité ou d'exclusion. Et aussi un autre aspect quand même qui est important, c'est que bon, il y a toute une série de comportements moraux dans les marchés, je dirais, qui pourraient aller par la réduction de la consommation. Pour une société plus durable, la meilleure manière, c'est de consommer moins, donc consommer moins d'énergie, par exemple. Et là, bah, généralement, les pauvres, bah, par la force des choses, bah, ils sont plus durables. Mais ça, ce n'est pas vraiment reconnu. Donc là encore, le discours est plutôt, voilà, il faut acheter local, il faut acheter bio, parce que ça, c'est bien pour l'environnement. Mais acheter moins, c'est encore mieux. Mais évidemment, ce n'est pas forcément bien pour l'économie en tant que telle, pour la croissance économique. Donc là, on a encore un conflit de différentes finalités qui se met en place.
Ici, dans l'arc jurassien, région encore rurale, avec beaucoup de coutumes, de traditions, avec la saison de la chasse qui bat son plein, avec bientôt la Saint-Martin, on va manger le cochon sous toutes ses formes. Est-ce que ces discours sur la moralité dans l'alimentation ont autant de prise que dans une grande ville, par exemple, ou des régions plus urbaines?
Les enquêtes, par exemple, sur les consommateurs, donc la consommation engagée, donc les comportements des consommateurs, on voit que c'est plutôt un phénomène donc, de classe moyenne et plutôt aisé et aussi un peu plus urbain que rural. Mais je ne dirais pas que c'est la dimension principale. Je crois que c'est aussi très présent. Donc non, je ne pense pas que c'est une grande différence, en fait.
La 16, le jeûne, c'est des régimes qui sont prônés de tout temps, depuis des millénaires, par des doctrines religieuses, philosophiques. On renonce à certains aliments pour s'élever spirituellement, pour aller mieux. Or, aujourd'hui, on a l'impression que ce qui change, c'est que c'est moins le bien-être de celui qui mange qui importe que celui de l'environnement dans lequel on se trouve.
Je crois qu'en partie, il y a eu un peu un changement de discours, oui. Par exemple, il y a des études qui ont été faites ici à Neuchâtel, d'ailleurs, sur les végétariens au début des années 80 à peu près. Et donc c'était des enquêtes qualitatives, et là ce qui est sorti, c'est les motivations, c'est avant tout par rapport à sa propre santé, ou un peu plus largement un bien-être spirituel. Aujourd'hui, si on faisait une étude similaire, les justifications, les motivations qui sortiraient seraient plutôt portées vers l'importance du bien-être des animaux, et voilà. Donc de ce point de vue, je crois qu'il y a un petit peu des changements, mais je crois qu'aussi, en général, là où ça marche le mieux, en tout cas du point de vue des consommateurs, c'est là qu'on peut articuler les deux. L'exemple type, c'est le bio, qui est à la fois, donc c'est quelque chose qui est, le bio à la base, c'est pour l'environnement. Donc c'est un mode de production qui est mieux pour l'environnement. Mais évidemment, il y a aussi, en tout cas, une croyance que c'est mieux pour la santé. Et donc là, on peut en fait articuler les deux, et c'est là aussi, je crois que c'est pas un hasard que ça, c'est une des formes de la morale dans les marchés qui a eu le plus de succès.
Comment vous voyez l'avenir, Philippe Balziger, par rapport à cette évolution de la morale dans notre manière de nous nourrir? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir assister à des retournements spectaculaires à plus ou moins court terme? Quels pourraient être les éléments déclencheurs pour un changement de pratique, qu'on abandonne la viande, par exemple, ou bien qu'on mange tout autrement?
Les changements spectaculaires sont assez rares dans les sociétés. Donc, à mon avis, et encore plus rare dans ces pratiques quotidiennes. C'est plutôt quelque chose qui évolue assez lentement. Donc moi, ça, je ne pense pas qu'on va assister à des changements spectaculaires, mais il y a une tendance maintenant, donc, une tendance de l'inscription de ces enjeux moraux dans les marchés. Je pense que ça va continuer, ça va encore probablement s'accentuer. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup. Par exemple, le véganisme, ça prend beaucoup de place dans le discours médiatique, mais dans les faits, ça reste quand même un phénomène relativement marginal, qui fait beaucoup de bruit. C'est aussi une des tactiques de milieu radical de défense animale, c'est de faire beaucoup de bruit pour faire parler d'eux. Mais dans les faits, ça reste assez marginal. Et il y a une partie où c'est peut-être aussi un peu un phénomène de mode, donc il faut voir comment ça va évoluer dans les 5-10 ans à venir. Mais je ne pense pas que tout d'un coup, nos sociétés vont se transformer et on va être majoritairement végans.
C'était Philippe Balziger, professeur assistant de sociologie économique à l'université de Neuchâtel. On a aussi parlé de vaccins contre la grippe, de prévoyance obsèques. Vous retrouvez bien sûr tous ces thèmes en ligne, en podcast, sur nos sites rjb.rtn et rfj.ch. Merci à Yannick Frossard pour la réalisation. Dans un instant, c'est le flash de 19h avec Alizé Lichty.